Sport à des champions. Toute l'actualité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Chaque mercredi à 18h30, présenté par Maxime Balade sur RVR.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RVR pour l'Aura des champions. Vous le savez, une demi-heure pour traiter de l'actualité sportive de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi de l'actu nationale en cette semaine chargée. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Parlons Sport, ou sur Twitter avec le hashtag ADC. Pour m'accompagner ce soir, notre ami, notre Twitos, il est enfin de retour, déjà depuis la semaine dernière, mais il est encore là aujourd'hui, c'est Charles Perrier. Salut Charles.
Salut Maxime, salut à tous.
Charles, tu es seul pour m'accompagner ce soir. Et mon petit doigt me dit que tu seras seul au micro dans quelques temps.
Il est possible, un petit teasing pour une émission assez prochaine.
On suivra ça dans l'aura des champions, mais ce soir on a un programme, comme on l'a dit, très chargé. On passe au sommaire de l'émission. Et au sommaire de l'aura des champions ce soir sur RVR, le sujet de la semaine avec la grosse page tennis qui nous attend entre Miami et la Coupe Davis. Retrouvez ensuite l'entretien avec Olivier Hirsch, le coach du Rouennais basket féminin dans le Labora. Suivra également l'agenda pour ne rien louper de la fin de semaine. Et ce soir, pas de pronos de la semaine ni de twistat, mais on me dit dans l'oreillette qu'elles seront de retour la semaine prochaine. C'est parti pour l'aura des champions, déjà la 18e édition sur Radio Val-d'Or.
La radio qui vous ressemble, RVR.
Et on commence la rétro avec un sujet qui nous a marqué depuis mercredi dernier. On va commencer avec toi, Charles.
Et oui, Maxime, c'est la défaite, hein, une nouvelle défaite à domicile pour la chorale ce week-end. C'est la chorale qui recevait Blois après une très bonne opération à Denain, et la chorale qui s'est inclinée dans les toutes dernières minutes de jeu à Blois, hein, alors qu'elle avait pas mal débuté la rencontre avec notamment une première mi-temps devant 39-35 à la pause. Donc la chorale qui s'est finalement écroulée avec quelques tensions, hein, on a vu entre les joueurs lors de la deuxième mi-temps, et la chorale donc qui s'incline face à Blois 68-75. Et malgré cette défaite, on peut quand même souligner les très bons débuts de la recrue Roberto Nelson.
Oui, la chorale de Rouen qui avait vécu une page magique en remportant la Leaders Cup au mois de février. Depuis, c'est quand même compliqué pour les Rouennais qui finissent cette saison. Alors, il reste quand même 10 journées encore dans ce championnat de Pro B. La chorale de Rouen qui est d'ailleurs égalité avec un autre club du département, c'est Saint-Chamond, qui est 14e. Mais voilà, nos deux clubs sont quand même à une seule victoire de la zone de relégation de Boulogne-sur-Mer. À 10 journées de la fin, c'est quand même assez inquiétant, même si on sait quand même que le championnat est très serré. Hein. Les Rouennais ne sont qu'à deux victoires seulement d'une place en play-off. Eux qui sont déjà qualifiés pour les play-offs via la Leaders Cup. Mais voilà, c'est quand même inquiétant, Charles, de voir que la chorale est quand même très très proche d'une potentielle descente en NM1.
Bah, c'est d'autant plus inquiétant que la chorale avait fait un très bon début de saison, et notamment un très bon début de pré-saison. Et c'est dommage aussi, puisque ce week-end, l'équipe de Denain a gagné contre un autre club de la région, c'est Vichy Clermont. Et donc Rouen qui se retrouve 15e, comme tu l'as dit, à un point, à une seule petite victoire de la zone de relégation. Donc il va falloir faire très attention pour les Rouennais, se mobiliser jusqu'au bout si on veut pas avoir de mauvaises surprises et de nouvelles descentes, puisqu'on en a déjà une, il me semble, du côté des filles.
Ouais, le RBF, on y reviendra dans quelques instants. Juste pour dire, le dernier match de championnat opposera Saint-Chamond à Rouen, et ça va jouer à l'Alvacheresse. Est-ce que c'est pas un signe du destin, ça?
C'est certainement un signe du destin, mais en tout cas on espère que la chorale se sera sauvée avant. Mais en tout cas, je pense que ça va être un match chaud bouillant comme le sont les bons vrais derbys.
Eh ben, en derby, justement, on en a eu un la semaine dernière, donc c'était le week-end passé, entre le Rouennais basket féminin et Montbrison. Un derby qui a tourné en faveur des Forésiennes, qui se sont imposées du côté de la Alvacheresse de 17 points. Voilà, Montbrison qui confirme ses bonnes dispositions, comme nous le rappelait Camille Cabaton dans l'aura des champions il y a deux semaines de cela. cela, Montbrison qui va essayer d'aller chercher une place en playoff, mais qui va également regarder quand même dans le rétro, puisque Aulnoy qui est le premier relégable hein, en championnat de Ligue 2 n'est pas très loin, donc voilà, faut faire attention, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, Montbrison va devoir regarder devant mais aussi regarder derrière, donc voilà, mais ça va faire une super fin de saison pour les joueuses de Montbrison, au contraire bah, du Rouennais Basket féminin qui lui est définitivement en National 1, qui va faire l'ascenseur, qui sera monté, aura été le seul promu en Ligue 2 cette saison et qui va redescendre un an après en National 1, mais qui aura, je l'espère et on le pense, on en discutera avec Olivier Hirsch, des ambitions très fortes la saison prochaine. Charles, qu'est-ce que t'en penses de ce match, ce derby qui était serré au début, attention, première mi-temps, l'URBF qui menait de 3 points et au final Montbrison qui a écrasé ce derby et qui se retrouve eh ben, à rêver de play-off.
Bah, c'est pas encore la fin de la saison, mais c'est vrai que ça a été un petit peu à l'image de cette saison où on a eu beaucoup d'espoir en les filles du RBF et puis finalement il y a cette défaite au bout et puis la descente, et après on tirera des conclusions sur la saison quand elle sera finie, mais c'est vrai que comme on l'avait dit, les filles sont peut-être montées un petit peu vite, le projet a pris une grande ampleur assez rapidement, alors qu'il était censé atteindre ses objectifs sur du plus long terme. Hein. Je crois que c'était sur 3 ans qu'elle voulait rejoindre la Ligue 2, et puis finalement ça s'est fait en seulement 1 an. Donc pourquoi pas faire une très bonne saison l'année prochaine et puis revenir à ce niveau-là et cette fois conserver sa position dans le classement de Pro B. Et pour revenir un petit peu sur Montbrison, c'était un peu ce que Camille nous disait la semaine dernière. C'est un petit peu le paradoxe hein, d'avoir autant de clubs qui sont rétrogradés, c'est qu'il faut regarder devant pour jouer les playoffs, mais en même temps il faut faire très attention à ce qui vient derrière, donc c'est un petit peu le paradoxe de cette Pro B féminine.
Le sujet de la semaine aujourd'hui concerne le tennis avec une actu assez grande cette semaine. Avec tout d'abord, on va parler de la Coupe Davis avant d'évoquer le tournoi de Miami qui se déroule actuellement. La Coupe Davis avec la sélection de Yannick Noah qui est tombée ce mardi. Voilà, pas de Cador côté français, pas de Joe Wilfried Tsonga, pas de Gaël Monfils qui est quand même remplaçant lui, pas de Richard Gasquet qui s'était fait opérer de l'appendicite. Donc voilà, on se retrouve avec Gilles Simon, Luc Apouille, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. De l'autre côté, donc on affronte la Grande-Bretagne, ça débutera le 7 avril prochain. Pas d'Andy Murray, donc à quoi il faut s'attendre concrètement pour ce quart de finale de Coupe Davis, Charles?
Quart de finale très disputé. Hein. C'est vrai, comme tu l'as dit, les cadors de l'équipe de France qui sont pas là, mais d'un côté, on a des joueurs assez solides, hein, notamment en double avec Pierre Gerber et Nicolas Mahut. On a des joueurs comme Gilles Simon hein, qui sont aussi pas en bonne forme sur ce début de saison. Avec Gilles Simon aussi qui est un très bon joueur et habitué de l'équipe de France, donc on peut s'attendre à un duel assez disputé. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un très bon double en face. Du côté de l'Angleterre, et ça peut être un des matchs décisifs.
On espère quand même que l'équipe de France va pouvoir remporter ce match hein, pour une fois qu'il n'y a pas un top player en face. C'est peut-être le moment ou jamais d'aller battre la Grande-Bretagne. Alors certes, les joueurs sélectionnés ne sont pas ceux qui sont le plus en forme, mais bon, on a quand même un Luc Apouille qui est 15e mondial, on a quand même, comme tu l'as dit, Gilles Simon qui connaît bien l'équipe de France, donc voilà, pourquoi pas. Bon, après il y a aussi Pierre-Hugues Herbert qui a dû déclarer forfait sur blessure lors du tournoi de double de Miami, donc là ça va être quand même compliqué pour l'équipe de France qui n'est pas habitué à jouer sans ses cadors. Et une question est revenue dans l'actualité, parce que Joe Wilfried Tsonga ne joue pas parce qu'il a eu la naissance de son premier enfant, un petit garçon. Alors Charles, est-ce que tu penses que c'est une raison valable pour ne pas aller disputer un match avec l'équipe de France. Alors, il y a deux positions sur ce sujet. Il y a ceux qui pensent que oui, évidemment, c'est un moment important de la vie d'un homme, tout simplement. Et puis, il y en a qui disent, voilà, bon, il y a l'aspect familial, mais aussi le collectif avec le maillot bleu et l'équipe de France. Voilà, deux poids, deux mesures. Toi, qu'est-ce que t'en penses ?
Non, je sais pas. Je vais dire que j'ai pas assez d'expérience et je n'ai même moi-même pas accédé à la paternité pour l'instant, mais c'est vrai qu'il a dû de toute façon en discuter avec Yannick Noah. C'est toujours un événement assez exceptionnel. Peut-être que le fait qu'Andy Murray soit absent aussi a pesé un petit peu dans la balance, mais en tout cas, bah, c'est une bonne chose pour son gars, et puis ça peut que lui apporter du bonheur. Et quand on est heureux en dehors du terrain, c'est plus facile d'être performant sur le terrain.
Pour finir sur ce sujet, c'est quand même une sélection provisoire. Hein. Yannick Noah a annoncé qu'il allait quand même essayer d'aller parler à Joe Wilfried Tsonga encore une fois pour essayer de l'avoir auprès de lui lors de cette rencontre contre la Grande-Bretagne. On verra cette rencontre de Coupe Davis pour les Français.
Je sais pas qui va aligner si jamais cette sélection reste celle-ci. Je sais pas, parce que on a déjà eu Pierre Guerbert et Nicolas Mahut en équipe de France en Coupe Davis en double, hein, mais on a vu que lors des dernières rencontres, c'était pas forcément ce double-là qui était aligné, et pourtant c'est un double qui a vraiment l'habitude de jouer ensemble.
Faut voir, Yannick Noah se retrouve quand même dans une situation assez compliquée pour cette rencontre. Alors heureusement, je pense qu'ils ont dû souffler ce mardi quand Yannick Noah a appris qu'Andy Murray n'était pas là. Bon, ça a dû quand même... voilà, ça, on a quand même dû mieux respirer dans le clan français, mais c'est compliqué. C'est compliqué de faire la sélection. Il y a aussi des choses à prendre en compte. Par exemple, voilà, un mec comme Benoît Paire, je vais revenir sur lui, mais avait fort de sa semaine à Miami, avait toutes les cartes en main pour prétendre à une sélection, hein, étant donné l'état de forme de Gilles Simon ou même de Lucas Pouille. Mais voilà, Benoît Paire, c'est peut-être pas en adéquation avec certaines valeurs de l'équipe de France. Bah,
est-ce que tu penses, toi, Maxime, que Benoît Paire a ces valeurs qui sont importantes à l'équipe de France? Est-ce que tu penses que Benoît Paire est légitime pour porter ce maillot-là?
Alors moi, je pense pas qu'il y ait de joueur qui ne soit pas vraiment légitime pour porter le maillot de l'équipe de France. Alors,
même après ce qui s'est passé au JO, même après ce qui s'est toutes les histoires qu'il y a eu autour de Benoît Paire, tu penses pas qu'il y a quand même on peut prendre un petit peu position sur ce débat-là?
Voilà, si, je comprends tout à fait que le grand public prenne position par rapport à, évidemment, je savais que tu allais m'en parler, ce qui s'est passé du côté des Jeux Olympiques. Après, il y a eu quand même quelques vérités qui ont éclaté, notamment récemment, comme quoi, voilà, ce qu'on a bien voulu faire croire au grand public via les médias, c'était pas forcément la vérité sur ce qui s'était passé à Rio. Après, c'est vrai que Benoît Paire, c'est quand même un joueur sanguin, un joueur qui est connu pour être très individualiste, pour lâcher des matchs quand il a plus envie de jouer. Ouais, c'est un joueur très très spécial. Est-ce qu'il pourrait jouer avec l'équipe de France? Il avait déjà été sélectionné une fois, hein, il y a 3-4 ans, sans jouer de match. Mais voilà, c'est compliqué. Je comprends tout à fait que ça soit compliqué pour Yannick Noah de prendre Benoît Paire, même si, voilà, cette semaine, il a quand même réalisé de bons matchs à Miami. Pour moi, Benoît Paire avait, par exemple, plus sa place en ce moment, à l'heure actuelle, que Gilles Simon, qui voilà, a un taux de victoire inférieur à son taux de défaite cette saison. Donc voilà, c'est assez compliqué.
Oui, après on parle des performances, mais c'est comme dans tout sport, et au niveau de toutes les équipes de France, dans tous les sports, il y a des choix à faire au niveau des sélections. Il n'y a pas que les performances qui comptent. Et je suis désolé de revenir un petit peu sur du football, mais c'est un petit peu ce qu'on voit avec Benzema en équipe de France de football.
Non, c'est un peu le même exemple que Karim Benzema. Après, c'est quand même deux choses pour moi différentes. Parce que le tennis, c'est quand même un sport très individuel, hein. Voilà, les joueurs, ils jouent pour eux, ils jouent pas. Bon, alors d'accord, en Coupe Davis, les joueurs forment une équipe. Mais voilà, ils jouent pour leur pays. Mais je trouve même en jouant pour leur pays en Coupe Davis, c'est quand même vraiment différent que des compétitions collectives comme une Coupe du Monde de foot, même un championnat du monde de handball. C'est complètement différent. La Coupe Davis, voilà, les joueurs, moi c'est mon avis, mais voilà, un joueur qui perd en Coupe Davis, bah voilà, la semaine d'après, il est de retour sur les terrains de l'ATP et voilà, il tourne la page. Donc c'est compliqué. On ferme, Charles, cette rétro de la semaine et on passe au labora. Olivier, bonsoir. Vous êtes l'entraîneur du Rouennais Basket Féminin. Le club est promu cette saison en Ligue 2 et va descendre. Comment analysez-vous la saison que vous avez passée ?
Wow, la saison qui n'est pas encore terminée, ouais, était très compliquée. Déjà, la Fédé là qui annonce 4 descentes à l'intersaison, alors qu'il y a 14 équipes et le centre fédéral qui ne descend pas. Déjà, ça veut dire que les équipes qui ont pas de gros moyens risquent déjà d'être en difficulté. Donc nous qui avons tardé à constituer notre effectif, on était en plein dans ce scénario-là. On a terminé longtemps après la plupart des équipes de notre championnat. On a appris seulement au mois de juin qu'on était accepté de participer à la Ligue 2. Donc voilà, il a fallu constituer un groupe rapidement et on n'a pas eu forcément les moyens adéquats pour vraiment concurrencer des équipes qui étaient formatées depuis des années à jouer dans cette Ligue 2. De plus, trois équipes descendaient de Ligue féminine. Les équipes également qui ont construit des équipes pour essayer de remonter cette année, alors qu'il n'y a qu'une seule montée. Donc voilà, on était la seule équipe de Hénin à monter et à jouer dans la cour des grands. Et comme on pouvait s'y attendre, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué. On a démontré tout au long de la saison, malheureusement, qu'on n'avait pas le niveau de cette Ligue 2. On a par moment eu la pression qu'il y avait du mieux. Certes, il y avait du mieux, mais c'était pas suffisant. Alors, on l'a démontré le samedi dernier en perdant de 17 points à domicile. Alors qu'il y avait plus aucune pression sur ce genre de rencontre, mais il y avait nécessité pour tout le monde de bien finir la saison individuellement et collectivement, et c'est chose qu'on n'a pas faite. Le dernier match à domicile, c'est un peu le résumé de notre saison. On était capable de faire des choses intéressantes et puis à un moment donné de s'écrouler complètement et puis tout simplement démontrer qu'on n'était pas au niveau.
Vous diriez que c'est plutôt une saison galère ou une saison quand même encourageante ?
Non, c'est une saison galère. C'est une saison vraiment galère, quoi. Saison encourageante, c'est être en position de maintien jusqu'à la fin de la saison, tirer les dernières cartouches sur les derniers matchs. Ça n'a pas été le cas. Nous, on est dans la charrette maintenant officiellement depuis le week-end dernier, mais on sentait bien que on était dans l'impossibilité d'aller accrocher la neuvième place. Depuis un moment, on le sent très bien. Je veux dire, on est impuissant à chaque sortie, et puis à domicile on pioche. On a quand même réussi à gagner quelques matchs, mais c'est tellement insuffisant.
C'était la mauvaise année pour monter pour le RBF.
Ouais, absolument, ouais. Vraiment, il y a qu'une seule montée, et de plus, hein, comme je disais au début, la Fédé a instauré 4 descentes pour faire passer la Ligue 2 à 12 équipes, ce qui est une aberration. Hein. Aujourd'hui, on nous demande de chercher de plus en plus de moyens chez les partenaires privés, de ne pas aller taper à la porte des collectivités, mais en même temps, l'année prochaine, la Ligue 2, les équipes qui vont jouer en Ligue 2 vont vendre aux partenaires que 11 matchs. Quoi. Cette année, il y avait 13 matchs. C'est pas retirer deux équipes qu'il faut faire, c'est en rajouter deux. Voilà, c'est simplement on a subi encore une décision de la Fédé qui est voilà, qui est incohérente. On va repartir jouer en National 1 en essayant de bien figurer la saison prochaine en repartant sur un nouveau projet. Okay. Et c'est vrai que non, c'est galère déjà dès le départ. On sait que 4 descentes, c'est déjà difficilement supportable en N1 en garçon, parce que moi j'ai déjà vécu quand il y a 18 équipes mais 4 descentes, c'est se foutre la pression tous les week-ends. Mais alors c'était pire cette année. Avec ce format de la compétition en Ligue 2.
Qu'est-ce qu'il restera quand même de cette année vécue en Ligue 2 pour l'équipe, pour le club et même pour la ville?
Franchement, je pense pour la ville, je sais pas, peut-être le public qui s'est déplacé pour voir le RBF aura vu aussi de belles joueuses en développement, hein, parce qu'entre guillemets la Ligue 2 c'est une ligue de développement quand chaque club est dans l'obligation d'aligner 4 joueuses de moins de 23 ans. Bon, nous on a joué le jeu parce qu'on a recruté quand même des joueuses en devenir, hein, comme notamment Amandine Toi et puis Laetitia Gapo, hein, qui venait de l'INSEP et puis de l'étage supérieur pour Laetitia. Que retenir, qu'on est passé de la lumière à la nuit, quoi. C'est ce que je sais pas, tout ça faudra demander tout simplement peut-être aux gens qui nous ont suivis tout au long de la saison. Nous de l'intérieur, on a vraiment galéré, hein, que ce soit les coachs, les joueurs, ça n'a pas été simple non plus pour elles. Et puis je pense surtout aux dirigeants, quoi, aux dirigeants et partenaires qui croyaient en nous, qui œuvrent au quotidien justement à essayer de maintenir le club à un certain niveau, hein. C'est un travail au quotidien, aller voir les partenaires, aller les solliciter, c'est chose pas facile, et surtout quand on a une équipe qui joue les derniers rôles dans un championnat.
On vous sent un peu éprouvé, c'était une saison compliquée, fatigante peut-être.
Ouais, c'était éprouvant, hein, totalement éprouvant, hein. Du début jusqu'à la fin, tout simplement. Donc c'était une saison complète de galère. Je dis, hein, pour tout le monde, hein, pour tous les acteurs du club. Donc on a hâte, je pense, maintenant que ça se termine. On a quand même la volonté de sortir de ce championnat la tête haute. Il nous reste 2 matchs à domicile. Bon, on va essayer de tout faire quand même pour les gagner. Et puis après on tournera la page et on essaiera de se remobiliser après pour la future saison, comme je disais tout à l'heure.
Donc vous nous confirmez que vous serez toujours le coach du RBF la saison prochaine?
Oh, oui, bien sûr. Oui.
Donc le RBF redescend en National 1. Est-ce que l'objectif dans l'esprit des membres du club, c'est une remontée immédiate dès l'année prochaine?
C'est l'année dernière, on n'avait pas du tout, on s'était pas du tout donné comme objectif la montée. Ouais, c'est présenté à nous. Faudra pas. Bon, je pense pas qu'on aura comme motivation. Enfin, pas la motivation, mais comme objectif de remonter. Ce serait une erreur d'annoncer partout qu'on veut remonter absolument. Disons qu'une montée, ça se bâtit en 2-3 ans. Après, des opportunités si on constitue un groupe. Comme on l'avait constitué la saison précédente, on jouera les premiers rôles. Bon, après, on ne sait pas non plus comment sera constituée la poule dans laquelle on jouera. Bon, après, le dernier scénario possible, c'est qu'on soit peut-être repêché, hein, aussi en Ligue 2. Hein. Ça, on ne le saura pas tout de suite. C'est pour ça qu'il faut qu'on termine le plus haut possible, qu'on laisse 2 équipes derrière nous. Bon, pour l'instant, il y a Limoges et Dunkerque qui sont derrière nous. Ces deux équipes-là restent derrière nous parce qu'il y a chaque année dans le basket féminin des équipes, des clubs qui disparaissent, des clubs qui ont des problèmes financiers. Et il y a toujours, toujours. Ça n'a pas été le cas l'année dernière, mais ça arrive des fois qu'un club, voire 2 clubs, soient sollicités pour être repêchés.
Alors, l'agenda, Charles, cette semaine, avec plusieurs rencontres et plusieurs rendez-vous à ne pas manquer en cette fin de semaine, avec tout d'abord la finale de la Coupe de la Ligue au Parc OL entre Monaco et le Paris Saint-Germain. De la Pro B, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que Rouen va mettre fin à cette spirale assez négative qui l'entoure en ce moment? Ils vont jouer du côté de Poitiers, ça sera vendredi. Saint-Chamond qui reçoit Denain Voltaire. Il y a aussi le tournoi ATP de Miami, on en parlait tout à l'heure avec cette fin de tournoi palpitante. Et puis autre chose, c'est le début de la finale de la Ligue Magnus, le championnat de France de hockey, qui oppose Gap à Rouen. Alors, pas d'équipe régionale dans cette finale. Grenoble a été éliminé par Rouen, le champion en titre. Mais ça sera quand même intéressant de voir cette rencontre entre Gap, petit budget de Ligue Magnus, et le grandissime favori Rouen. Donc, Charles, que ne vas-tu pas manquer cette semaine, en cette fin de semaine, dans l'actualité sportive?
Eh ben moi, pour moi, Maxime, ce sera la finale de la Coupe de la Ligue, hein, au Parc OL entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Ça sera certainement l'un des plus gros matchs de la saison dans l'Hexagone. C'est également un trophée qui est convoité par les deux équipes, parce qu'on sait qu'elles ont soif de victoire. Ça pourrait être pas un gros coup d'arrêt, mais un gros coup sur la tête pour le Paris Saint-Germain, qui est déjà éliminé de la Ligue des Champions. S'ils perdent en plus cette Coupe de la Ligue face à Monaco, ils auront plus que la Coupe de France et le championnat. Ça fait déjà deux trophées sur les quatre possibles. Donc je pense que ça va être certainement un très très gros match, avec le retour des internationaux qui étaient là cette semaine du côté de l'équipe de France. Et je pense, Maxime, je veux pas trop m'avancer parce que je pense qu'on va me tomber dessus si jamais je me trompe la semaine prochaine, mais je pense que Monaco est largement en mesure et va battre le Paris Saint-Germain samedi lors de la finale de la Coupe de la Ligue.
Eh bien, nous verrons ça si au Parc OL, Monaco va pouvoir continuer sa merveilleuse saison. Eux qui sont encore engagés sur les quatre tableaux, notamment en Ligue des Champions, ça va arriver très vite, ça aussi. Donc voilà, on verra cette finale au Parc OL, hein, qui aurait pu jouer, qui se joue d'ailleurs pour la première fois en dehors du Stade de France. Voilà, l'Olympique Lyonnais qui avait comme ambition aussi d'aller loin dans cette Coupe de la Ligue pour pourquoi pas jouer une finale chez lui dans son nouveau stade. Voilà, c'est chose manquée. Ça peut être une déception quand même sur ce point de vue-là pour l'OL.
Oui, une déception, parce que l'OL est capable de très très gros matchs, hein. On le voit en championnat, ils sont en très très bonne forme cette saison. En Europa League aussi, les matchs qui sortent contre la Roma notamment, c'est des matchs de très haute qualité. Mais malheureusement, il y a des très gros clubs maintenant en France, hein. Le Paris Saint-Germain et Monaco, ça joue très très bien au ballon. Mais l'OL est capable, hein, d'accrocher ces deux équipes. On l'a vu à Monaco, quand ils ont été battre Monaco sur le Rocher à Louis II. Donc oui, c'est une déception pour l'OL. Voilà, d'autant plus que la finale était chez eux. Mais bon, c'est un peu les aléas du football. On sait que devant, ça va très très vite du côté du PSG et de Monaco. Donc peut-être l'année prochaine pour l'OL.
On s'y voit aussi également, évidemment, du basket avec de la Pro B, à voir si nos deux clubs, Roanne et Saint-Chamond, vont s'en sortir à 10 journées de la fin du championnat, eux qui flirtent avec la zone de relégation. Et puis aussi, bah, le tennis avec nos deux Français. À l'heure où on se parle, peut-être que les deux ont battu respectivement Berdych et Nadal, peut-être. On ne sait pas, on en parlera la semaine prochaine, où on saura le vainqueur de ce troisième tournoi majeur de la saison après Indian Wells et l'Open d'Australie. C'est la fin de cet agenda. Les twistats et les pronos de la Reda, qu'on vous le promet, qui reviendront la semaine prochaine. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi prochain à la même heure, à suivre la suite de vos programmes sur Radio Val-d'Or, ainsi que sur Parlons Sport et sur tous nos réseaux sociaux. Merci à toi, Charles, d'avoir été là ce soir.
Merci Max, salut à tous et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine encore tous les deux, Charles. Mais la semaine d'après, on peut l'annoncer, le 12 avril, tu seras seul aux commandes de cette Aura des Champions avec un chroniqueur.
Je serai peut-être seul, mais bien sûr, comme tu l'as dit, bien accompagné par un ou plusieurs chroniqueurs. J'ai déjà quelques petites idées pour composer mon équipe.
On se retrouve donc mercredi prochain, même heure, même jour, sur les antennes de Radio Val-de-Rhin. Bonne soirée à tous et que la force du sport soit avec vous.
L'aura des champions. Toute l'actualité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Chaque mercredi à 18h30, présenté par Maxime Ballade sur RVR.